C'est l'un des plus gros best-sellers cette année, La vie secrète des arbres, qui est sorti en France aux éditions Les Arènes et qui est signé du forestier allemand Peter Wohleben. Il était venu en mars dernier dans l'émission nous présenter son ouvrage et je vous propose aujourd'hui de réentendre cet entretien au cours duquel Peter Wohleben nous avait parlé du comportement social, des liens d'amitié, de la communication et de la capacité des arbres à venir au secours des plus faibles. Des arbres qui peuvent aussi tomber malades, qui sont particulièrement sensibles aux variations du temps et aux changements climatiques. C'est le dossier de La Tête au Carré dans un instant. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme tous les jours. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la Une de la Science, on va apprendre à faire de bonnes crèmes glacées, même si ça n'est pas vraiment la saison.
Oui, mais c'est l'actualité bien fraîche des sciences. Des chercheurs anglais et français viennent de mettre au point une nouvelle protéine antigel biodégradable. On en discute avec le physicien Sylvain Deville.
Et puis nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui aux médicaments et aux femmes enceintes. C'est Fanny Boyon qui réalise aujourd'hui cette Tête au Carré.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La vie secrète des arbres, c'est donc un livre qui arrive en France aux éditions Les Arènes et c'est le dossier de notre émission avec le forestier allemand Peter Wohleben. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Vous racontez dans votre ouvrage que les arbres sont doués de certaines formes d'intelligence dans les stratégies qu'ils adoptent pour survivre ou pour vivre en société. Est-ce que pour autant on pourrait aller jusqu'à dire que les arbres possèdent un cerveau ?
Nous ne savons pas s'ils ont un cerveau.
Et nous savons qu'ils peuvent compter.
Nous savons qu'ils ont des souvenirs. Et nous savons qu'ils peuvent communiquer entre eux.
Et ça fait déjà beaucoup. Et on va découvrir justement toutes ces stratégies mises au point par les arbres telles que vous les dévoilez dans cet ouvrage. Les questions des auditeurs arrivent déjà d'ailleurs sur le site de l'émission. Je vous les transmets dans un instant sur franceinter.fr. Et à la Une de la Science, aujourd'hui, comment faire une bonne glace sans cristaux, et c'est très sérieux.
Pure merveille de sorbet, sertie de morceaux de fruits, crème glacée au parfum précieux.
Et des chercheurs anglais et français publient cette semaine la synthèse d'une nouvelle protéine biodégradable qui empêche l'eau de former des cristaux en dessous de 0 degré. C'est une découverte qui pourrait intéresser les glaciers, mais surtout les médecins et même les agriculteurs. Et on en discute, Axel, avec votre invité.
Et oui, Mathieu, et bonjour Sylvain Deville.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences des matériaux, laboratoire de synthèse et de fonctionnalisation des céramiques à Cavaillon. Alors, des molécules antigèles, on en connaît. La nouveauté de votre travail, là, c'est le côté biodégradable. Quel est l'intérêt pour une molécule antigèle ?
Alors, l'intérêt de cette étude, effectivement, c'est d'arriver à pouvoir conserver des cellules, voire des tissus ou des organes éventuellement, hein, en les congelant. Mm-hmm. Les protocoles qui actuellement, ils sont assez compliqués. Ils utilisent des solvants type DMSO, par exemple, mm-hmm. qui sont plutôt toxiques. Et donc, les protocoles sont assez compliqués et il faut notamment, à la fin une fois qu'on a congelé et fait fondre à nouveau ce qu'on voulait conserver, il faut éliminer ces solvants à nouveau. Donc c'est des étapes qui sont compliquées et qui conduisent à pas mal de pertes de cellules, par exemple, au cours de ces protocoles.
D'accord.
Donc on a un vrai intérêt à essayer de trouver des alternatives qui soient un peu moins toxiques et un peu plus sympathiques pour les cellules.
Alors physiquement, comment agit un antigel, une protéine qui empêche l'eau de geler ?
Alors c'est pas vraiment qu'elle empêche l'eau de geler. Hein. On a plusieurs, il y a plusieurs mécanismes possibles. Soit on va retarder la congélation en empêchant les cristaux de se former. Ce qui nous intéresse dans ce type d'application, la cryopréservation, c'est plutôt de faire une inhibition de la recristallisation. Donc rapidement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand on va congeler, on va former des cristaux de glace dans un échantillon, dans mm-hmm. l'eau par exemple. Hein. Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que si on maintient cet échantillon congelé à basse température pendant longtemps, on veut éviter qu'une croissance des cristaux qui va se faire naturellement. Donc on veut vraiment inhiber cette recristallisation qui peut faire des dommages vraiment considérables dans ce qu'on a congelé.
On trouve ce genre de mécanisme déjà dans la nature, dans le vivant ?
Ouais, tout à fait. Alors nous, on s'est un peu inspiré de ce qu'on a dans le vivant, parce que la vie à basse température, elle concerne pas mal de régions du globe. Hein.
Ouais.
Et il y a beaucoup d'organismes qui ont développé différentes stratégies pour résister à basse température. Alors les organismes à sang chaud, c'est la stratégie de l'ours. Hein. Ils s'enterrent sous terre et ils restent chauds jusqu'à ce que dehors ils se remettent à faire une bonne température. Il y a pas mal d'espèces qui peuvent pas se permettre de faire ça et donc qui ont développé des résistances au froid avec des protéines particulières, donc qu'on appelle des protéines antigèles. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'organismes vivants, aussi bien des légumes. Hein. Il y en a dans des salades par exemple, il y en a dans des choux. vous en avez déjà mangé certainement. Et on retrouve également dans beaucoup d'animaux des poissons, des insectes, pas mal d'organismes de ce type qui vivent vraiment dans des climats froids et qui résistent à basse température du coup.
Donc Sylvain Deville, on est vraiment dans le biomimétisme là, sur cette découverte ?
On est vraiment dans le biomimétisme, Mathieu, tout à fait. Ouais. Donc l'idée c'était vraiment de s'inspirer de la structure de ces molécules. Ces protéines qui sont extrêmement compliquées, hein. C'est des problèmes d'interaction extrêmement spécifiques entre ces protéines et la surface de la glace, chose qui est extrêmement difficile à réaliser. Et on s'est inspiré directement de la structure qu'on retrouve dans ces protéines pour faire des alternatives synthétiques qu'on peut évidemment utiliser et synthétiser de manière beaucoup plus simple que de devoir extraire ces protéines naturellement.
Pourquoi il est important que les échantillons du vivant ne soient pas impactés par des cristaux? Vous dites que c'est important que les cristaux ne se reforment pas.
Ouais, c'est important parce que quand vous allez congeler, vous voulez pouvoir décongeler, garder en état, garder la fonctionnalité de ce que vous avez congelé, donc ouais. Les cellules par exemple. Et si on a une recristallisation qui va se faire quand on va conserver l'échantillon à froid, ça va simplement faire exploser les cellules. Donc elles perdent toute leur fonctionnalité, on préserve plus rien du tout à la fin. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir contrôler ces mécanismes.
Quel est le record de température qu'on peut atteindre pour des êtres vivants qui a été mesuré?
Alors, le record, il n'est pas chez les humains. Hein.
Oui.
Pendant longtemps, il y a eu un record qui a tenu, qui était d'une petite blatte au Canada, qui a résisté jusqu'à moins 80 degrés.
Sans geler, alors, donc, c'est ça. Hein.
Sans geler. Elle passe l'hiver, quand vraiment il y a des coups de froid extrêmes, à moins 80 degrés, elle résiste et elle est encore vivante. Et puis, il y a 2-3 ans, on a eu des résultats tout à fait étonnants et encore non expliqués, avec une équipe qui a congelé des sangsues dans l'azote liquide, donc à moins 196 degrés pendant plusieurs heures. Et après les avoir décongelées, elles étaient encore en vie. Quoi. Aujourd'hui, on sait toujours pas comment c'est possible.
À moins 196 degrés, elles ne bougeaient plus.
Ah non, elles ne bougeaient plus à moins 196 degrés, non.
Mais c'est quoi? C'est des protéines qui les protègent justement du gel ou pas?
Alors dans ces sangsues, on n'en a aucune idée pour l'instant.
Ouais.
On a constaté, je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de faire même cette expérience, hein, de mettre dans des sangsues dans l'azote liquide directement. Je pense que l'étude continue pour qu'ils essaient de comprendre d'où ça vient, mais en tout cas c'est assez fascinant de voir une résistance à des températures aussi basses, alors que même à la surface de la Terre, on n'a jamais des températures aussi basses, bien sûr.
Oui. On a parlé des crèmes glacées au début de la rubrique. Il y a vraiment un intérêt pour les glaciers, pour l'agroalimentaire dans votre travail ?
Alors c'est vraiment le problème fondamental de la crème glacée de l'agroalimentaire, hein, qui a un marché absolument gigantesque. Hein, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, le marché de la crème glacée.
Ouais.
Et la plupart des additifs qu'on met dans la crème glacée, c'est exactement pour bloquer ce phénomène, en fait. Puisque pour qu'une une crème glacée, alors la problématique est un peu différente des cellules, hein, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne texture dans la glace qu'on fait.
Ouais.
Et une bonne texture, ça veut dire des tout petits cristaux de glace. Et comme en général, entre le moment où la crème glacée est fabriquée et le moment où on la consomme, eh ben, il peut s'écouler plusieurs jours, voire plusieurs semaines, eh ben, il y a beaucoup d'additifs qui sont injectés dans la glace pour bloquer cette recristallisation.
C'est
et
pour
vous
ça
pouvez
que...
le tester simplement si vous conservez de la glace chez vous au congélateur un peu trop longtemps, pendant plusieurs mois. Surtout si une glace est un peu de mauvaise qualité, vous verrez que vous avez très gros cristaux qui vont pousser dans la glace finalement.
Alors la molécule sur laquelle vous avez travaillé s'appelle la polyproline. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Polyproline, donc ça veut simplement dire que c'est un assemblage de plusieurs acides aminés. La proline, c'est un acide aminé tout simple.
Ouais.
Et donc là, ce qu'ils ont fait, l'équipe à Warwick, avec qui on travaille, c'est qu'ils ont synthétisé une structure en hélice, qui est un assemblage de plusieurs de ces acides aminés, et qui présente une structure donc qui est vraiment directement inspirée de ces protéines antigèles et qui a plutôt des bonnes performances pour ces applications.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application, Sylvain Deville, à part la crème glacée, évidemment?
Alors, la résistance au froid, la crème glacée, évidemment, c'est un marché gigantesque. Puis, un autre intérêt aussi, c'est dans l'agriculture, pour développer la résistance au froid d'un certain nombre de plantes. Quand vous avez un coup de gel un peu tardif qui risque de massacrer toutes les récoltes, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est regardé aussi dans l'agroalimentaire et le domaine agricole, d'arriver à développer des espèces qui soient résistantes au froid. Il me semble même qu'il y a une variété de tomates qui a été développée donc en injectant ces protéines antigèles dedans pour leur offrir une meilleure résistance au gel.
Alors vous n'êtes pas biologiste, vous avez travaillé avec cette équipe anglaise. Quel était votre travail pour designer cette protéine ?
Ouais, donc moi je suis pas du tout biologiste, effectivement, on n'a pas du tout designé la protéine non plus. Nous ce qu'on a pu apporter, c'est qu'au laboratoire on travaille sur la congélation dans un contexte complètement différent qui est celui de la science des matériaux, et on s'intéresse à contrôler la croissance des cristaux de glace. Et donc, on a développé au laboratoire une méthode pour pouvoir étudier in situ les cristaux de glace et leur forme, leur morphologie lorsqu'ils sont en croissance. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu contribuer en apportant notre savoir-faire expérimental pour pouvoir étudier un peu les mécanismes d'interaction entre leurs nouvelles molécules et les cristaux de glace.
Donc, bonne association de disciplines scientifiques, là, pour le coup, hein, autour de cette découverte.
Oui, tout à fait. Là, avec la congélation, on est vraiment sur des sujets qui touchent à beaucoup de domaines différents. Et c'est vraiment une étude intéressante pour nous qui sort complètement de ce qu'on fait habituellement, mais qui met à profit un peu ce qu'on a pu développer chez nous.
Ça faisait longtemps que les équipes cherchaient justement à produire ces molécules antigènes biodégradables. Il y avait une vraie difficulté jusqu'à maintenant à pouvoir les mettre au point, Sylvain Deville ?
Alors, il y a une vraie difficulté. Ça fait longtemps que les gens regardent, parce que ça fait longtemps que les gens ont envie de pouvoir faire la cryopréservation. Pour le moment, on sait le faire pour des choses assez simples. Pour des choses plus compliquées, notamment des tissus, voire des organes, on est encore loin de le savoir faire. Donc il y a beaucoup de gens que ça intéresse, évidemment, de faire ce genre de choses. Alors les gens, au début, ont essayé d'utiliser directement des protéines antigels, extraites donc de différents organismes, pour voir un peu leur performance en cryopréservation. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a d'une part une difficulté, c'est de les extraire. Puis d'autre part, il peut y avoir des problèmes de toxicité, parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas toxique, donc il faut toujours pouvoir vérifier ça. Et donc il y a pas mal de groupes en ce moment qui travaillent à développer des alternatives synthétiques qui soient beaucoup moins toxiques et beaucoup plus simples à utiliser que les solutions actuelles. Ouais.
Mais en médecine, on pourrait imaginer quel type d'application alors grâce à ces molécules?
Alors, il y a beaucoup de choses différentes qu'on peut faire. La première chose auxquelles on pense, c'est de congeler des cellules pour les préserver. Ça peut être pour les préserver dans le temps ou bien pour les préserver pour les transporter. Mmh. Si on prend le sang, par exemple, en France, on peut toujours trouver un endroit. Alors, il y a des pénuries de sang souvent, mais on peut le conserver sous forme liquide sans avoir à le stocker longtemps. Qu'on va dans des pays où c'est un peu plus difficile d'accès ou si on pense aux militaires sur le terrain, par exemple, souvent, on ne peut pas leur amener le sang sous forme liquide. Mmh. Et donc, ils ont besoin soit de le congeler, soit de le sécher, éventuellement. Et c'est des protocoles qui posent beaucoup de problèmes et qui sont assez lourds à mettre en œuvre, après, qui sont pas très simples, quoi. Après, sur plus long terme, il y a un autre intérêt, un vrai intérêt, c'est celui de développer des nouveaux matériaux pour faire de l'ingénierie tissulaire, par exemple. Mmh. Et si on peut déjà déposer des cellules à l'intérieur, eh ben, on va favoriser cette ingénierie tissulaire qui sera plus simple. Et donc, congeler ces cellules sur les tissus directement, c'est aussi un intérêt assez fort. Et puis vraiment, sur le plus long terme, ça serait éventuellement de pouvoir congeler des organes entiers ou des choses comme ça.
C'est ça, ouais.
Et là, on est encore loin du compte, hein, pour l'instant. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Hein.
Mais ça laisse quand même de belles perspectives. Et bravo donc pour ces recherches et cette molécule antigel biodégradable. Sylvain Deville, vous êtes chercheur en sciences des matériaux à Cavaillon. Merci beaucoup de votre éclairage.
Merci.
Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité, la perte de surface boisée à l'échelle de la planète a bondi de 51% en 2016. Incendies, déforestation, activités minières sont les trois facteurs principaux expliquant la perte cette année de 30 millions d'hectares de forêt. Avec une mention spéciale pour les feux qui cette année ont été d'une ampleur record sur tous les continents et des superficies importantes brûlées en Californie, au Portugal et au Brésil notamment. Selon l'organisation Global Forest Watch qui publie ce bilan, le changement climatique accroît le risque d'intensité et de coût des feux de forêt. Et cette année record a des chances de devenir la norme dans un futur proche. La taille du crâne des musaraignes varie selon les saisons. Ce petit rongeur de la taille d'une souris peut voir sa boîte crânienne perdre près de 20% de son volume au début de l'hiver et retrouver sa forme d'origine au printemps. Les chercheurs allemands qui publient cette découverte s'avouent incapables de trouver une explication à ce phénomène unique chez les mammifères, d'autant que d'autres organes subissent également une réduction hivernale comme la colonne vertébrale qui rétrécit. Une explication logique serait que cette perte de taille permet de passer l'hiver en consommant moins d'énergie. Et puis pour terminer, voici une méthode scientifique pour débarrasser vos fruits des pesticides qui pourraient se trouver à la surface et dans la peau. Mélangez dans un verre de l'eau avec du bicarbonate de soude alimentaire, une ou deux cuillères à café et laissez tremper votre fruit 12 minutes. Jetez l'eau et pelez votre fruit. Eh bien, cette méthode vous permettra de retirer plus de 80% des résidus chimiques contenus dans la peau et la surface extérieure du fruit. Ce test très sérieux a été réalisé en laboratoire par des chercheurs de l'Ohio qui précise que de frotter votre pomme avec un t-shirt vous permettra seulement de retirer la poussière, mais en aucun cas les polluants se trouvant sur la peau. On vous raconte la vie secrète des arbres dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré.
Do you see people being led by the righteous hand?
taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me.
Les forêts du monde. J'ai marché sur la canopée. J'ai exploré des kilomètres de sous-bois. À chaque instant, j'ai été émerveillé par la capacité des grands arbres à vivre immobiles. Combien de fois ces êtres de bois ont mis au défi ma propre intelligence.
Extrait du film de Luc Jacquet, Il était une forêt, avec la voix à l'instant du biologiste Francis Allais. On parle d'un livre aujourd'hui qui est un best-seller. Il est d'abord sorti en Allemagne avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Il a été traduit dans 32 langues et il arrive enfin en France. C'est l'ouvrage donc La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, publié aux éditions Les Arènes. Et Peter Vollenben, vous êtes l'auteur de ce livre. Vous êtes notre invité cet après-midi. Vous êtes forestier en Allemagne où vous dirigez une forêt écologique près de Cologne. Alors c'est vrai que depuis deux ans, là, vous êtes devenu le forestier le plus célèbre du monde avec cet ouvrage. Est-ce que c'est le fait d'avoir anthropomorphisé la forêt qui explique justement que ce livre ait touché à ce point le grand public ?
Ich glaube tatsächlich nicht.
Je ne crois pas.
Dass ich nur das übersetzt habe, was Wissenschaft schon seit
teilweise 40 Jahren weiß. Je n'ai fait que traduire ce que la science savait déjà.
Und jeder Wissenschaftler hat sich auf einen ganz schmalen
Ausschnitt spezialisiert. Das heißt, wir haben
les, in der Scientifiques sont spécialisés sur le secteur bien précis.
Was dahinter steht. Und ich habe es einfach zusammengesetzt, das Puzzle.
Et moi, j'ai rassemblé un peu toutes ces connaissances.
Ein wunderbares Wesen wie ein Elefant des Pflanzenreichs.
Und genauso wie wir alle wissen, was ein Elefant comme une sorte d'éléphant du règne végétal.
Genauso sollte man eigentlich auch wissen, was ein Baum macht. Und da helfe ich.
Et de la même façon qu'on sait ce qu'un comment un éléphant vit, il faudrait faire la même chose pour les arbres.
Mais dans votre travail d'écriture, vous avez quand même essayé de faire un gros boulot de vulgarisation, justement. Pour essayer de nous raconter cette histoire de la forêt.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, wissenschaftliche Sprache ist so ein bisschen, ohne dass das Kritik sein soll,
unmenschlich. Cela vient du fait que la langue des scientifiques est souvent peu accessible.
Und wir funktionieren zu, je nach wissenschaftlichem Standpunkt, zu bis zu 90% durch Emotionen. Und wenn man
Emotionen aus einer Sprache erklärt, versteht das nicht mehr. À travers des émotions.
Und ich habe die Emotionen wieder in die Sprache zurückgebracht.
J'ai essayé de réintroduire ces émotions dans le langage.
Und das ist gar nicht mein Einfall gewesen, weil ich seit 25 Jahren Waldführung mache.
Und die Leute, en fait, je gère des forêts depuis 25 ans.
Die Leute gelangweilt waren.
Et je voyais tout de suite, quand j'expliquais ça aux gens, à quel moment les gens s'ennuyaient.
Das ist langweilig, das mag keiner hören. Und ich habe die Führung einfach emotionaler gestaltet, so
donc,
dass es
jeder de rendre mes visites de forêt plus émotionnelles,
mit dem Herzen versteht.
Und dann habe ich gesehen, cœur des gens.
Es hören alle zu, es nehmen alle die richtigen Informationen nach Hause.
Donc je me suis rendu compte qu'ils en retiraient quand même ce que je voulais.
Und ja, und das habe ich dann irgendwann mal in Buchform gebracht,
aber j'ai essayé de mettre ça sous forme de livre.
Weil meine Frau gesagt hat, Mensch, schreib das doch mal auf.
Parce que ma femme m'a dit, mais allez, écris-le ce livre, enfin.
Et vous avez eu raison de le faire. Est-ce que les Allemands ont une relation très émotionnelle, justement, avec leur forêt par rapport aux autres peuples de la planète?
Heißt das immer. Und das ist c'est ce qu'on dit toujours. Erklärt man ja genau wie die Wettervorhersage, am besten immer hinterher.
Oui, c'est comme la météo, on explique toujours ça après coup.
Hinterher hat man natürlich gesagt, ja klar, das
oui, après coup, on a dit, oui, bien sûr, l'Allemagne, le rapport à la forêt, etc., les Allemands.
C'est un bisschen verrückt mit den Märchen und mit diesen ganzen Dingen.
Oui, je crois que c'est très exagéré.
Es funktioniert weltweit, egal ob in China oder in Brasilien.
L'intérêt pour les arbres est mondial, que ce soit en Chine, au Canada ou ailleurs.
Jeder Mensch eine besondere Beziehung zum Wald hat.
En fait, je crois que tout un chacun a un rapport particulier avec les arbres. Ce n'est pas un phénomène local.
Quelle est la caractéristique de la forêt dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, Peter Wallenben, en Allemagne, donc près de Cologne?
Der Wald funktioniert eigentlich so oder ist auch so aufgebaut wie die Wälder Nord- und Mittelfrankreichs.
C'est une forêt comparable à celle du Nord de la France, par exemple.
Nämlich Laubwälder, alte Laubwälder.
Les forêts de feuillus.
Das ist unser vorherrschendes Ökosystem.
Donc, un écosystème préexistant
von Buchen und auch ein paar Eichen,
composé essentiellement de hêtres et de chênes.
Und diese ganzen
aussi d'autres espèces.
Die kann man aber nur in ungestört.
Et tous les phénomènes qui sont décrits dans mon livre ne peuvent être observés que dans des forêts qu'on laisse tranquilles.
Nicht, dass
la forêt fonctionne comme un système social.
Ich habe zum Beispiel auch einen Ofen zu Hause, da verbrenne ich Baumknochen.
Oui, par exemple, j'ai un poêle chez moi dans lequel je brûle. Was verbrennen Sie da?
Ich verbrenne dort Baumknochen. Das ist Holz.
Ah oui, des nœuds de bois.
Von Bäumen. Das heißt also, ich lasse auch Bäume fällen, auch für meinen eigenen Bedarf.
Donc, je fais couper des arbres aussi pour mes propres besoins.
Aber ich finde, wir sollten Gebiete haben, in denen Bäume wild leben
mais
dürfen.
Il faudrait préserver des espaces où les arbres peuvent vivre en liberté.
Die ganzen tollen Prozesse, die ganzen Sozialeigenschaften von Bäumen.
Tous ces processus extraordinaires, leur capacité sociale, ça, ne peuvent se développer que lorsqu'ils vivent en liberté.
C'est quoi une forêt en bonne santé, au fond, aujourd'hui, Peter Wallenben? Et est-ce que l'Europe, d'ailleurs, possède des forêts en bonne santé?
Europa hat gesunde Wälder,
oui, l'Europe possède des forêts en bonne santé.
Sind die weder in Deutschland noch in Frankreich,
mais elles ne sont ni en Allemagne ni en France.
Es gibt zum Beispiel in Rumänien noch.
Il y en a en Roumanie, par exemple.
Gesunde Wälder sind Wälder, die der Mensch
une forêt en bonne santé est une forêt que l'homme n'a pas trop dérangée.
In Frankreich als in Deutschland waren das
mais en France
Römer,
comme en Allemagne, depuis l'époque des Romains, on a beaucoup, on est beaucoup intervenu dans les forêts.
Viel zu wenig alte Bäume. Also,
nous Bäume, avons trop peu d'arbres âgés.
Unsere Wälder, kann man sagen, sind bevölkert, wenn man das auf
on peut dire que nos forêts sont peuplées, si on peut dire,
mit, nur 20-30-Jährigen.
De gens qui auraient entre 20 et 30 ans.
Oui.
La pyramide des âges n'est pas équilibrée.
C'est ça. C'est le problème d'ailleurs peut-être dans cette relation entre les hommes et les arbres. C'est la lenteur qui caractérise avant tout la croissance des arbres. Parce que les humains n'attendent pas évidemment que l'arbre aille à son terme parce qu'il faut attendre des centaines d'années. Hein.
erwachsen genau, ist. Genau, das ist es.
Eine
Baumjugend zum Beispiel dauert 200 bis 300 Jahre. Eine Baumjugend.
Voilà, la jeunesse d'un arbre, c'est 200 ou 300 ans.
Dann können Bäume erst erwachsen werden.
C'est seulement après que les arbres deviennent adultes.
Und das Dumme ist, in Zeiten, wo Rendite wichtig ist.
Et ce qui est idiot, c'est qu'à des époques où la rentabilité est importante.
Bis ein Baum gefällt wird, nur noch 70 Jahre Zeit.
On attend qu'en moyenne 70 ans avant de couper un arbre.
Und damit nehmen wir den Bäumen ihre natürliche Entwicklungsmöglichkeit.
Et donc on prive les arbres de leur développement naturel.
Ça veut dire, alors ça vous l'expliquez très très bien, que les jeunes arbres, donc les juvéniles, doivent attendre parfois 200 ans sous leur mère avant de pouvoir s'exprimer enfin un jour et accéder vraiment à la photosynthèse.
Das ist übrigens weltweit gleich. Das ist kein
c'est pareil dans le monde entier.
Mitteleuropa, das ist in Brasilien nicht anders.
C'est pareil en Europe centrale, au Brésil.
Das ist dieses lange Warten, das ist gefährlich für kleine Bäume.
Cette longue attente est dangereuse pour les arbres.
Die Überwurzelverwachsung mit den Mutterbäumen.
Et cet entrelacement des racines avec celles de l'arbre mère est souvent détruit.
Ja, die werden regelrecht gestillt wie Säugetiere. Und man kann
les arbres sont allaités, pour ainsi dire, comme des mammifères.
Jetzt kann man sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
Oui, on peut dire, c'est un peu tiré par les cheveux.
Sehr vermenschlicht.
C'est trop anthropomorphisé.
Aber das ist eine Forschung der Universität von Vancouver.
Mais il y a eu une étude de l'Université de Vancouver qui montre que les arbres mères reconnaissent les racines de leurs rejetons.
Und die dann gezielt mit Zuckerlösung unterstützen.
Et qu'elles leur fournissent très volontairement des solutions de glucose.
Il y a une question de Patrice sur franceinter.fr qui nous demande ceci. Comment peut-on expliquer que des arbres grandissent beaucoup plus vite ou plus haut que d'autres? Alors, qu'est-ce qui explique la différence de croissance selon les arbres?
Wenn es Bäume, also ich gehe mal davon aus, dass es um einen Vergleich Bäume derselben Art geht.
Partons du principe qu'il s'agit de comparaison entre des arbres de la même espèce.
Dann wachsen Bäume umso höher, je wohler sie sich fühlen.
Les arbres poussent d'autant plus haut qu'ils se sentent bien.
Also wenn sie in einem intakten Familienverband leben und man
si
kann
vivez
das
dans un contexte familial équilibré et heureux,
dann werden die Bäume deutlich höher als wenn sie für sich allein.
Ces arbres vont pousser de façon beaucoup plus satisfaisante et plus rapide.
Das ist vielleicht so ein bisschen auf menschliche Eigenschaften übertragen, so wie wenn ein Kind auf der Straße aufwächst oder
c'est
in einer intakten
exactement la même différence entre un enfant des rues et un enfant qui vit dans un milieu familial sain.
Sauf que, est-ce que le jeune arbre grandit plus vite ou au contraire, c'est l'arbre âgé qui a une croissance plus rapide?
Ja, also ohne Familie wächst ein kleiner Baum viel, viel schneller und wir verwechseln immer
un jeune arbre sans famille pousse beaucoup plus vite, en fait.
Wir verwechseln Geschwindigkeit mit
Mais
Gesundheit.
Mais il ne faut pas confondre vitesse et santé.
Und ein Baum, der schnell wächst, wird nicht alt.
Voilà, un arbre qui pousse vite ne fera pas de vieux os, si on peut dire.
Ouais. Peter Vollebaine, est-ce que vous savez combien d'arbres ont été abattus à cause du succès de votre livre?
Das ist eine Frage, die ich gefürchtet habe.
Je craignais cette question.
Nein, also genauso wie ich mit Holz heize, so lese ich auch gerne Papierbücher.
Oui, de la même façon que je consomme du bois de chauffage, j'aime bien lire des livres papier aussi.
Woher kommt das Papier? Und
d'où vient le
papier? Es ist halt schön, wenn das Papier aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern stammt.
C'est évidemment beaucoup mieux que si le papier vient de forêts gérées de façon écologique.
Auch die Menschen haben Bedürfnisse und können
les hommes aussi ont des besoins.
Ich wünsche mir nur, dass das in ein besseres Gleichgewicht kommt.
Je souhaiterais simplement que cela reste dans un équilibre plus satisfaisant.
Et vous êtes attentif aux traductions qui sont faites justement avec les différents éditeurs pour savoir si le papier utilisé était issu de forêts écologiques ou pas?
Ich versuche das. Ich bin kein Spezialist.
Je ne suis pas spécialiste de l'imprimerie.
Ich nehme das gerne als Anregung mit.
Mais je le suggère volontiers.
Bon après-midi sur France Inter. C'est Gaël Faye tout de suite avec Petit Pays.
Toyi gahugu kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaoku katoyi, gaoku kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaoku katoyi, gaoku kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaoku katoyi, gaoku kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaoku katoyi, gaoku kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaoku katoyi, gaoku kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaoku katoyi, gaoku kaniniya.
Et c'était Gaël Faye à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Peter Volleben est donc notre invité à l'occasion de la traduction en français de son livre La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. C'est aux éditions Les Arènes avec Bernard Mangiande pour la traduction en français de cette discussion. Dites-nous justement, Peter Volleben, ce qu'est un arbre d'abord, la définition toute simple. C'est juste un tronc avec des branches, un arbre? C'est aussi simple que ça ou pas?
Wir wissen nicht genau, was ein
Baum
ist.
On ne sait pas exactement ce qu'est un arbre.
Ah oui?
Zum Beispiel, wenn wir einen Baum fällen und es
lorsque nous coupons un arbre,
ein
par exemple,
aus dem Stumpf aus, ist das
et
dann
qu'un
ein
nouveau
neuer
tronc
Baum?
Pousse de la vieille souche, est-ce un nouvel arbre?
Würden wir sagen, nein, es ist kein neuer Baum.
Nous dirions plutôt non, ce n'est pas un nouvel arbre.
Möglicherweise speichert ein Baum zum Beispiel
il est possible
seine
qu'un arbre stocke ses souvenirs dans ses racines.
Wir wissen, dass Bäume in den Wurzelspitzen gehirnähnliche Strukturen
nous haben. Savons que les arbres possèdent dans leurs racines und des structures analogues à celles d'un cerveau.
Gehirnähnliche Prozesse ab.
Et qu'il s'y joue des processus analogues.
Super spannend und möglicherweise auch nach dem Sitz der Erinnerung.
C'est très passionnant et il est possible aussi qu'on y trouve dans ces systèmes racinaires le siège du souvenir.
Et c'est pour ça qu'on parlait de cerveau tout à l'heure et que les souches d'arbres pourraient faire office justement, si vraiment on extrapole, il faut faire très attention à ce qu'on dit, de cerveau.
Könnten, aber das ist Spekulation.
C'est possible, mais c'est de la spéculation.
Auch die Forscher, die das mit den Wurzelspitzen herausgefunden
les
haben,
chercheurs qui sont spécialisés dans l'étude des racines,
werden von ihren Kollegen kritisiert.
Ces chercheurs ont été très critiqués par leurs collègues.
Donc il faut avancer encore dans les recherches. Justement, c'est ce problème de lenteur aussi qui fait qu'on connaît mal le fonctionnement de cette communauté de la forêt, Peter Volleben.
Ja, genau.
Which ist tout à fait ça.
Elektrische Signale laufen bei Bäumen maximal mit einem Zentimeter pro Sekunde.
Les informations électriques circulent à vitesse maximale d'un centimètre par seconde.
Bäume reagieren extrem langsam.
Donc les arbres réagissent de façon très lente.
Deswegen sind sie auch für die Forschung nicht so sehr spannend.
Donc ils sont pas très passionnants pour la recherche scientifique de ce point de vue-là.
Mittlerweile wissen wir zum Beispiel, dass Bäume sogar zählen können.
Mais nous savons maintenant que les arbres peuvent compter, par exemple.
Zum Beispiel jetzt im Frühling die warmen Tage über 20 Grad.
Par exemple, ils peuvent compter les journées où la température au printemps dépasse les 20 degrés.
Ça, damit sie nicht zu früh austreiben.
Afin qu'ils ne débourrent pas trop tôt, qu'ils ne commencent pas à faire leurs feuilles trop tôt.
Starker Frost hinten dran kommen.
Au cas où une gelée surviendrait.
Also das ist starke Forschung, nur wo merken sich die Bäume das?
Mais comment les arbres font-ils pour savoir ça?
Die Frage kann ich leider auch nicht beantworten.
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à cette question.
Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'horloge interne aussi pour les arbres? Ça, on connaît bien ce phénomène quand même par rapport au jour et à la nuit. On sait que les plantes réagissent aussi avec un cycle assez régulier.
Ist ein interessanter Reflex, den wir Menschen haben.
C'est un réflexe intéressant qu'ont les hommes.
Die Sichtweise auf die Natur, dass dort alles automatisch passiert.
De s'imaginer que tout se passe de façon automatique dans la nature.
Zeit der Aufklärung.
Et ça vient de l'époque des Lumières.
Dort hat man auch Tiere als Maschine gesehen.
Hein, à l'époque, on voyait les animaux comme des Maschinen, par exemple.
Der französische Forscher Claude Bernard.
Claude Bernard, par exemple.
Hunde aufgeschnitten, lebendig.
Hein, a disséqué des chiens vivants.
Hat das Schreien der Hunde als Quietschen einer schlecht geölten Maschine beschrieben.
Ouais, il a décrit les hurlements des chiens, à ce moment-là, comme les grincements d'une machine mal lubrifiée.
Und das haben wir bis heute auf Pflanzen übertragen.
Et ça, on l'a transposé sur les plantes, si on peut dire, jusqu'à aujourd'hui.
Wenn wir den Menschen in seine chemischen Abläufe zerlegen, ist er auch nur eine Maschine.
Hein, si on découpe l'homme, pour ainsi dire, en ses processus chimiques, ce n'est après tout qu'une machine aussi.
Mais on a aussi fait des expériences, et Mendel par exemple, qui enfermait des plantes dans l'obscurité et qui voyait bien quand même que les fleurs réapparaissaient dans un cycle régulier aussi de processus biologique.
Ja, also da passiert viel mehr. Also Pflanzen
il se passe beaucoup plus de choses dans le règne végétal. Les plantes peuvent prendre des décisions de façon active.
Wenn ein Baum eine heftige Dürre erleidet,
lorsqu'un arbre souffre d'une sécheresse sévère, par exemple,
reißt das Holz innen drin und das tut dem Baum weh.
Son bois se fissure à l'intérieur et ça lui fait mal à l'arbre.
Und er lernt aus den Schmerzen, sich künftig das Wasser anders einzuteilen.
Voilà, et du coup, à travers cette douleur, à cause de cette douleur, il apprend à gérer autrement ses réserves d'eau à l'avenir.
Und zwar ein halbes Jahr später im nächsten Frühling.
Six mois plus tard, au printemps suivant.
Der Baum merkt sich das und
ändert seine l'arbre Strategie. A compris ça et il va changer sa stratégie.
L'arbre ne pousse pas de cris, Peter Jolleben.
Auch das weiß man nicht.
Ça non plus, on ne sait pas.
Bäume kann man schlecht ins Labor setzen, deswegen hat man das mit Getreide gemacht.
Oui, on peut difficilement mettre des arbres dans un laboratoire, donc on a étudié ça sur les céréales.
Und man weiß, dass Getreide mit den Wurzeln bei 220 Hertz knackt.
On sait par exemple que les céréales émettent des craquements sur une longueur d'onde de 220 Hertz.
Jetzt kann das natürlich sein, sowas wie wenn wir mit den Fingern knacken. Das
ça ist peut auch ressembler à ce que nous faisons nous quand nous faisons craquer nos doigts. Mais on...
Aber man hat erstaunlicherweise festgestellt, dass
on
sich
a
die
constaté
Wurzeln
avec étonnement
der Artgenossen auf diese
que les racines de ces espèces,
die Wurzeln der Artgenossen richten sich auf diese Knackgeräusche aus.
Que les racines de leurs congénères de la même espèce se déterminent par rapport à ces craquements.
Also es scheint tatsächlich
se dirige aussi dans le sol grâce à ces...
Es scheint auch eine akustische Kommunikation zu geben, aber da sind
donc
wir noch ganz
il y aurait
Anfang.
Comme une communication acoustique entre les végétaux.
Jean nous pose cette question, vous pose cette question. Est-ce que les champignons vivent en symbiose avec les arbres? Alors vous en parlez justement dans votre ouvrage.
Symbiose, ja, das ist aber auch ein sehr technischer Begriff.
La symbiose, oui, mais c'est un concept
so
très technique.
So in symbiose, wie wir zum Beispiel mit dem Internet leben.
C'est un peu une symbiose comme la nôtre avec Internet, pour prendre cette comparaison-là.
Pilze tatsächlich viel mehr sind als nur ein kleiner Helfer der Bäume.
Les champignons sont bien plus qu'un petit auxiliaire des arbres.
Die leiten zum Beispiel gegen Bezahlung Informationen weiter.
Ils leur fournissent par exemple, ils transmettent de l'information, mais contre rétribution.
Ja, also die bekommen dafür Zucker.
En échange, ils reçoivent du sucre.
Und leiten zum Beispiel Warnungen über Insektenbefall an
andere. Et ils peuvent transmettre par exemple des alertes sur l'arrivée d'insectes ravageurs.
Und zwar sowohl chemisch als auch elektrisch.
Et cela de façon aussi bien chimique qu'électrique.
C'est-à-dire que les champignons sont capables d'émettre des substances toxiques lorsqu'il y a danger pour l'arbre justement qu'ils accompagnent.
Also Pilze können zwei Dinge machen. Es gibt natürlich
Die Champignons peuvent faire deux choses.
Ganz viele Arten von Pilzen.
Ja, beaucoup de champignons.
Aber die Pilze, die den Bäumen helfen, die können tatsächlich Tiere töten für die Bäume.
Les champignons qui aident les arbres peuvent tuer des insectes pour les arbres, justement.
Aber nicht um die Bäume zu verteidigen.
Mais pas pour défendre les arbres.
Sondern um Stickstoff zu erzeugen.
Mais pour créer du carbone.
Stickstoff, ja. Und zwar ist das dann so ähnlich, als wenn wir Fleisch essen, also Bäume essen.
De la même façon que lorsque nous mangeons de la viande, par exemple.
Indirekt in Notzeiten auch kleine Bodentiere.
Voilà, les champignons que vous comparez donc effectivement au réseau internet de la forêt avec ce maillage, effectivement d'une efficacité redoutable, comme on peut le découvrir dans votre livre. On va écouter l'histoire d'une autre symbiose entre les fourmis et les arbres, par exemple, toujours extrait du film Il était une forêt de Luc Jacquet.
Pour éviter les agressions, certains de ces pionniers vont appeler des animaux à leur secours. Quand l'arbre Cecropia fabrique une nouvelle feuille, il dévoile à sa base ce qui ressemble à s'y méprendre à des œufs de fourmis. L'effet est immédiat. Les fourmis se mettent à ouvrir de petites portes créées par l'arbre tout le long de sa tige. Les fourmis sont désormais chez elles. Elles percent des ouvertures entre chaque étage. Les insectes occupent bientôt Cecropia sur toute sa hauteur. Cecropia peut grandir tranquille. Ses locataires se chargent de sa défense.
Voilà, Cecropia, donc le nom de cet arbre. Arbre fourmi d'ailleurs, hein, on l'appelle également de cette façon. Autre exemple, hein, Peter Volleben, pour montrer aussi les compagnonnages, les collaborations entre les insectes et les arbres. Ils sont nombreux dans la forêt.
Es gibt zum Beispiel Spitzenkirschen, Zucker an den Blättern aus für Ameisen.
Oui, il y a par exemple les fourmis recueillent du sucre sur les branches des arbres.
Um Ameisen anzulocken und die Ameisen fressen dann Raupen, die sonst Blätter fressen würden.
Oui, c'est ça, il s'agit d'attirer les fourmis et les fourmis mangent les chenilles qui sinon pourraient détruire les arbres.
Oder wenn Bäume von Raupen befallen werden,
ou lorsque les arbres sont attaqués justement par
des chenilles, dann schmecken die den Speichel der Raupen und wissen, welche Art es ist.
Les fourmis goûtent la salive des chenilles et savent de quelle espèce il s'agit.
Und können dann gezielt Insekten herbeirufen, die diese Raupen fressen.
Et peuvent attirer des insectes qui vont détruire justement ces chenilles.
Peter Volleben, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion autour donc de la vie secrète des arbres et cet ouvrage donc qui paraît aux éditions Les Arènes.
J'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ses morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés. Mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. À la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois qui revient. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. Mylène et
ne suffit pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène.
J'attends Mylène. Mickey 3D sur France Inter. Peter Voleben, donc notre invité avec La vie secrète des arbres. Bernard Mangiante pour la traduction. Alors, vous vouliez faire une petite correction, Bernard Mangiante, justement, au sujet du lien entre les fourmis et les arbres.
Il y avait un mot que je n'avais pas entendu. En fait, c'est l'arbre qui sent le goût de la salive des fourmis et qui va donc attirer en conséquence des insectes pour
voilà, et des auditeurs détruire les chenilles. Salut la qualité de votre traduction, je voulais vous le dire aussi, il n'y a pas de raison. Stéphane nous dit, toute activité vivante produit des déchets, où sont les rejets des arbres? Peter Voleben.
Une bonne question. Lorsqu'un éléphant va aux toilettes, comme on dit, qu'est-ce qui se passe?
Bäume haben genauso einen Stoffwechsel.
Et les arbres aussi, bien sûr, ont un métabolisme.
Und die machen ihr großes Geschäft im Herbst.
Et ils font leurs besoins, si on peut dire, à l'automne.
Wenn kurz bevor sie die Blätter abwerfen,
juste avant de se débarrasser de leurs feuilles,
pumpen sie ihr großes Geschäft da rein.
Ils y pompent, entre guillemets, leur déjection.
Ob deswegen die Farbe braun ist, weiß ich nicht.
Alors, je sais pas si c'est pour ça que la couleur en est brune.
Mais oui, bon, pourquoi pas.
Et c'est donc une seule fois par an? Et de, nur einmal im Jahr.
Ja, also Bäume können gut durchhalten.
Ouais. Oui, ils peuvent tenir tout ça.
Alors, vous parlez beaucoup du carbone aussi, évidemment, puisque on croit savoir que les arbres sont capables de capturer énormément de quantités de carbone. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que devient le carbone ensuite?
Daraus wird irgendwann Kohle.
À un moment ou à un autre, ça devient du charbon.
Also Wälder sind keine Kreisläufe für Kohlenstoff.
Les forêts ne sont pas le lieu d'un cycle.
Sondern sie sind Kohlenstoffspeicher.
Ils stockent le carbone.
Deswegen ist es auch keine gute Idee, Öl oder Kohle durch Holz zu ersetzen.
C'est pour cela que ce n'est pas une bonne idée de remplacer le pétrole par du bois.
Weil es für das Klima egal ist.
Parce que pour le climat, ça revient au même.
Alors justement, le lien entre les phénomènes météo futurs, le climat en général, ça c'est une question d'Hélène qui est arrivée sur franceinter.fr. Est-ce que les végétaux sont capables de s'adapter justement à des phénomènes météo futurs? Et puis on va élargir justement sur la question climatique.
Also Wälder können den Klimawandel, zumindest den, der aktuell prognostiziert wird, gut überstehen.
Les arbres pourront sans doute résister au changement climatique, en tout cas tel qu'il est pronostiqué pour l'instant.
Wenn ein Wald nicht bewirtschaftet wird, kann er sich im Sommer im Durchschnitt 3 Grad herunterkühlen.
Lorsqu'une forêt n'est pas exploitée, elle peut baisser sa température ambiante de 3 degrés en moyenne durant l'été.
Im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern.
En comparaison avec une forêt qui est exploitée.
Das heißt, je weniger wir die Wälder stören, desto besser halten
moins
die
nous dérangeons, aus. Moins nous intervenons dans les forêts, mieux c'est.
Das hängt damit zusammen, dass Bäume zusammen schwitzen.
Et c'est lié au fait que les arbres transpirent lorsqu'ils sont regroupés.
Ein ausgewachsener Baum bis zu 500 Liter Wasser pro Tag.
Un arbre adulte peut rejeter jusqu'à 500 litres d'eau par jour.
Und wenn sehr viele Bäume zusammen schwitzen, dann kühlt das genauso wie wenn
lorsque
wir
beaucoup d'arbres rassemblés transpirent tous, ça dégage évidemment beaucoup d'humidité, donc ça refroidit la température.
Und wenn wir viele Bäume fällen in einem Wald,
et lorsque nous coupons beaucoup d'arbres dans une forêt,
kommt da sehr viel Sonne auf den Boden und der Wald wird warm und trocken.
Et cela réchauffe le sol et la forêt en général.
Alors justement, la promiscuité des arbres au sein d'une forêt, est-ce que c'est un problème réellement pour l'accès tout simplement à la lumière?
Ja, wir Menschen sind ja Augentiere.
Oui, les hommes sont très focalisés sur la vue.
Und wenn es unten am Waldboden braun ist, gefällt uns das nicht.
Et lorsqu'on voit le sol brun et sombre dans une forêt, ça nous plaît pas.
Aber in einem europäischen Urwald ist es am Boden ganz dunkel.
Mais dans une forêt primaire de type européen, le sol est très sombre. Il fait très sombre.
Und wir denken, ach, der Wald ist artenarm.
Oui, et nous, quand nous voyons ça, nous disons, ah, cette forêt est très pauvre en espèces.
In Wirklichkeit leben in einem mitteleuropäischen Buchenurwald mindestens 10.000 Tierarten.
Mais en réalité, dans ce sous-bois européen, il y a à peu près 10.000 espèces animales qui vivent.
Die meisten interessieren uns nicht, weil sie so klein und hässlich sind.
La plupart nous intéressent pas parce qu'elles sont minuscules et très vilaines en général.
Mm-hmm. Wir schauen dann lieber nach Borneo auf die Orang-Outans.
On préfère regarder les orang-outans de Borneo.
Ouais, c'est ça. Vous défendez vos forêts évidemment européennes. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous dites que finalement les arbres doivent apprendre à vivre en communauté en respectant une sorte de règlement intérieur. On voit cette verticalité qui caractérise justement les forêts. Dès qu'il y a un problème au fond sur la structure même de l'arbre, il faut faut que cet organisme apprenne à se reverticaliser.
Bäume müssen gerade wachsen, damit sie später Stürme gut abfedern
können. Oui, les arbres doivent pousser bien verticaux pour pouvoir résister plus tard aux tempêtes.
Und dazu werden die kleinen Bäume tatsächlich, das ist auch ein Fachausdruck, von den Mutterbäumen erzogen.
Et les jeunes arbres sont littéralement éduqués par leur mère. C'est une expression scientifique.
Ganz starke Lichtdrosselung, also durch einen ganz tiefen Schatten.
Oui, qui les soumettent à une ombre très épaisse.
Und jeder Baum, der nicht gerade wächst und sich nach dem Licht streckt, stirbt, weil er überwachsen wird.
Tout arbre qui ne pousse pas droit et ne se dirige pas vers la lumière meurt.
Und das ist vielleicht ein bisschen strenger als unsere Schulen.
C'est un peu plus sévère que nos écoles.
C'est ça, d'où l'intérêt de se remettre dans le droit chemin, justement. Alors, vous parlez de l'amitié. Là aussi, vous employez des mots qui peuvent paraître un peu surprenants pour les arbres. Et pourtant, dans le cas d'arbres malades, par exemple, vous dites bien à quel point la communauté autour de l'arbre malade fait en sorte d'apporter les nutriments nécessaires pour renforcer la pathologie et l'arbre qui, justement, est déficient.
Ja, ich glaube, wir haben in der Schule alle Evolution falsch beigebracht bekommen.
Je crois qu'à l'école, on nous a appris l'évolution d'une manière erronée.
Dass nur der Stärkste überlebt.
Que ce n'est que le plus fort qui survit.
Und das sehen wir aktuell auch ein bisschen in der Politik.
Et c'est ce qu'on voit actuellement en politique aussi.
Und ein Baum weiß aber instinktiv, er ist ein einziger Baum ist kein Wald.
Mais un arbre le sait de façon instinctive, un arbre tout seul, c'est pas une forêt.
Er braucht die anderen, um zu überleben, und deswegen unterstützt er auch alle anderen.
Il a besoin des autres pour survivre, et donc il aide aussi les autres.
Und selbst alte Baumstümpfe, die schon même seit vieilles souches, gefällt
qui sont âgées de plusieurs siècles,
werden noch am Leben gehalten,
sont maintenus en vie grâce à l'aide des autres arbres.
Und wir Menschen fragen immer, warum macht das ein Wald?
Et nous demandons pourquoi une forêt fait ça.
Ouais. Aber Bäume machen das bedingungslos, das gibt es eben auch.
Mais les arbres font ça sans condition, sans contrepartie.
Peter, pour terminer très rapidement, quel est le plus vieil arbre, en tout cas identifié aujourd'hui sur notre planète? Quel âge a-t-il?
Wahrscheinlich eine Fichte in Mittelschweden. Und diese Fichte ist knapp 10.000 Jahre alt.
Probablement un sapin en Suède qui est âgé à peu près 10.000 ans.
Die ist nicht viel höher als 5 Meter und armdick und die hat man übersehen.
À peu près 5 mètres de haut, pas plus, mais voilà.
Merci infiniment en tout cas pour votre venue aujourd'hui dans La Tête au Carré. Donc ce livre, La vie secrète des arbres, traduit en français et il arrive donc aux éditions Les Arènes. Je vous souhaite le même succès dans notre pays que chez vous en Allemagne avec plus de 800 000 exemplaires vendus et partout ailleurs dans le monde. Et puis merci à vous Bernard Mangiante pour la traduction de cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup.
Good merci beaucoup.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Alors les boîtes de médicaments vont donc bientôt comporter des alertes destinées aux femmes enceintes.
Oui Mathieu, l'agence du médicament a annoncé l'apparition de pictogrammes sur les boîtes de médicaments dangereux pendant la grossesse. Et je vous dirai la semaine prochaine ce que je pense de cette initiative qui fait suite bien sûr au scandale de la dépakine. Mais aujourd'hui, on va revoir l'histoire des médicaments tératogènes.
Alors rappelez-nous d'abord ce que signifie tératogène.
Bien sûr, ce sont les médicaments qui provoquent des malformations chez les bébés lorsqu'ils sont utilisés pendant la grossesse. Il existe aussi des virus tératogènes. Comme celui de la rubéole, mais c'est un autre sujet. Alors leur histoire commence en 1961. C'est l'année du drame du thalidomide, un sédatif léger commercialisé dans le monde entier et particulièrement recommandé aux femmes enceintes. Il aura fallu 4 ans pour qu'on découvre que le thalidomide pris pendant la grossesse provoque de graves malformations des membres. 15 000 bébés sont nés lourdement handicapés, avec des membres atrophiés ou manquants. Tout le monde a vu ces images abominables d'enfants sans bras ou avec les mains reliées aux épaules. Avant ce drame mondial, tous les médicaments étaient donnés aux femmes enceintes sans précaution particulière.
Vraiment ?
Oui, oui. Ouais. Et il n'y avait aucun suivi organisé des effets secondaires, ce qu'on appelle maintenant la pharmacovigilance. La fabrication des médicaments relevait de l'artisanat. Il y avait près de 2000 laboratoires pharmaceutiques rien qu'en France, qui se réduisaient souvent à un pharmacien-entrepreneur. C'était l'époque des start-up de la biologie, la buanderie tenant lieu de garage. C'est l'époque de micro-pharma. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a protégés du thalidomide.
Comment ça?
Eh bien, lorsque le dossier du thalidomide a été déposé en France, en 1959, nous venions de vivre le scandale du Stalinon, un médicament qui avait tué plus de 100 personnes et en avait rendu autant infirmes. Et ce drame avait conduit la France à durcir la procédure d'enregistrement des nouveaux médicaments, jusqu'alors plutôt succincte. Et donc, le dossier du thalidomide était resté en souffrance dans la pile d'attente. C'est ça qui a sauvé les bébés français alors que l'Allemagne avait compté 3000 victimes. En tout cas, l'affaire du thalidomide a provoqué en 1961 un électrochoc national et elle a signé le début de la pharmacovigilance moderne. Dans le même temps, les médicaments nouveaux ont été du coup systématiquement contre-indiqués chez les femmes enceintes. Ça n'a malheureusement pas empêché le drame du Distilbène, hein, autre médicament tératogène qui a fait de nombreuses victimes, et bien sûr, tout récemment, celui de la dépakine. Alors heureusement, hein, très peu de médicaments sont vraiment dangereux pendant la grossesse, et c'est surtout le principe de précaution qui conduit à limiter leur usage, et alors on risque parfois de priver une femme enceinte d'un traitement nécessaire et pourtant sans danger. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'il faut penser justement de ces pictogrammes qui vont être apposés sur les boîtes de 60% des médicaments commercialisés en France.
Et bien donc, on se retrouve la semaine prochaine, chronique à réécouter dès maintenant, en revanche sur franceinter.fr. Merci Dominique.
Merci.
C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Julien Chabassu qui était à la technique. Fabrice Drouel, ce sera dans un instant bien sûr avec Affaires Sensibles. Et demain, on se retrouve en direct avec le club des têtes au carré.